Chapitre 2. Depuis 4 ans, les 3 amis se voyaient tous les jours, en été au jardin, en hiver chez tante Cornélie. C'était elle qui les avait nommés « feuilles de trèfle ». Le jeudi après-midi, ils faisaient ensemble de grandes courses. Siméon n'entreprenait rien sans en conférer avec Ferdine, qui s'intéressait passionnément à tout ce que faisait son amie. Elle admirait sa science, lui soignait ses collections, lui nourrissait ses têtards. Elle chérissait à son exemple toutes les bêtes de la création et le défendait journellement contre la tyrannie d'Ernest. Entre elle et ce dernier, la bonne intelligence ne régnait pas toujours. Ferdine avait entrepris de corriger, moi d'abord, de son égoïsme et elle y mettait une énergie que l'objet de ses bonnes intentions était loin d'apprécier. « Tu n'aimes que Siméon !» gémissait-il. « Moi, tu ne peux pas me souffrir !»« Si, je t'aime. Est-ce que je m'occuperai de toi sans cela ?» répétait-elle sévèrement. « C'est ce que papa dit toujours quand il me punit. » Elle-même était très souvent punie, car Mademoiselle Caton, à qui son élève échappait plusieurs heures par jour, usait avec une rigueur extrême du droit de la réprimander quand elle la tenait. Elle avait fait, à l'usage de Ferdine, un règlement rigoureux en 23 articles que la fillette du copier de sa main affichait dans sa chambre et à prendre par cœur. « Ah, la vie n'est pas rose !» soupirait Ferdine en s'habillant un matin et en détournant les yeux de la grande feuille ornée du mot « règlement » en majuscule, fixée au-dessus de la toilette par 4 pains à cacheter. Article 1er. Ne pas fermer les portes bruyamment. Article 2. Ne pas se regarder dans les miroirs. Ah, qu'il est bête ce règlement! Quel plaisir peut-on trouver à se regarder dans les miroirs? Est-ce que j'aurais eu l'idée de le faire sans le règlement? Article 3. Ne pas avoir l'air évaporé. Cet article 3 était le sujet de discussions interminables entre Ferdine et sa bonne. Si la fillette montait l'escalier en courant, si elle balançait son chapeau à la main, si elle secouait trop vivement les boucles qui lui tombaient sur la figure, Mademoiselle Caton s'écriait « Frédégonde, vous avez l'air évaporé !»« Pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est !»« Vous n'avez qu'à vous regarder dans la glace et vous le saurez !» Article 2. Ne pas se regarder dans les miroirs, répliquait Ferdine avec malice. Article 11. Ne pas faire de réponses impertinentes, criait Mademoiselle Caton outrée. « Vous n'aurez que du pain sec à déjeuner !» Ferdine n'osait en appeler à son père, qui, par principe, donnait généralement raison à la bonne. Il n'était donc pas étonnant que la pauvre petite soupirât « Ah, la vie n'est pas rose !» tout en tressant ses cheveux noirs, qui étaient devenus très longs et dont elle faisait 2 grosses nattes. Pourtant, c'était un jeudi. Le temps était superbe, rien n'empêcherait l'expédition projetée depuis une semaine à la recherche d'œufs de grenouille. Ferdine se rasséréna un peu en y songeant. À 6h30, elle se hâta de descendre chez son père, qui lui donnait toujours une leçon avant le déjeuner. Il n'envoyait pas sa fille à l'école du village, mais il lui consacrait 1 heure ou 2 chaque jour et exigeait d'elle une somme de travail assez considérable. Elle étudiait la géographie en lisant des récits de voyage dont elle suivait l'itinéraire dans un grand atlas. Elle apprenait aussi l'histoire, la grammaire, l'arithmétique et un peu de latin. Elle venait d'achever le De Viris et abordait les commentaires de César qui l'ennuyaient à mourir. On voit que les leçons de Ferdine n'étaient pas une plaisanterie. Et quand le professeur est un papa très grave, qui ne sourit jamais, qui loue très rarement, qui fronce le sourcil à la première bévue et ferme le livre à la seconde, l'heure qu'on passe en face de lui paraît un peu longue. « As-tu bien dormi, papa ?» dit Ferdine en s'approchant de la petite table où ses livres étaient empilés à côté d'une grande écritoire. « Je n'ai pas dormi du tout. On est venu à minuit m'appeler pour un homme qui a eu la maladresse de se casser la jambe et qui demeure à 2 lieues d'ici. »«
Pauvre papa !» dit Ferdine.
« Tu veux dire pauvre homme, sans doute. Ce n'est pas moi qui me suis cassé la jambe. » Ainsi rappelée à la logique, elle baissa les yeux et n'ouvrit plus la bouche que pour réciter ses leçons. Heureusement, elle les avait préparées avec beaucoup de soin. Son père n'eut pas à froncer le sourcil une seule fois. Quand il eut examiné tout son travail de la veille, il lui dit « Jusqu'à l'heure du dîner, Frédégonde, tu étudieras le cours du Volga et de ses affluents,
Puis tu liras dans Guizot l'histoire du règne de François Ier. »
« Oui, papa, » répondit Ferdine en fermant ses cahiers.
Après le déjeuner, elle lava les jolis bols de porcelaine sous la haute surveillance de Mademoiselle Caton, qui citait continuellement son règlement.
Article 24. Ne pas ébrécher la vaisselle. Frédégonde, si vous laissez tomber ce plateau, vous serez privé de dessert pendant une semaine.
Je n'ai pas la moindre intention de le laisser tomber, répondit-elle d'un air distrait. Elle songeait aux œufs de grenouille de l'année dernière et aux infortunés têtards qui avaient misérablement péri de faim au cours de leur dernière transformation, faute de mouches à manger, au lieu des miettes de pain que Ferdine, leur pourvoyeuse, continuait à leur prodiguer, ignorant que l'estomac de ces intéressants pensionnaires réclamait un changement de régime. Siméon en avait eu un vif chagrin.
« Pauvre Siméon, je serai moins étourdie cette année. Mais j'ai pitié des pauvres petites mouches. Elles ne tiennent pas du tout à nourrir les têtards. Siméon devrait bien m'expliquer pourquoi le monde est ainsi fait que toujours une chose doit souffrir pour le profit des autres. Un têtard doit paraître gros comme une baleine à un pauvre moucheron qui danse trop près de l'eau et qui voit tout à coup une affreuse, immense gueule noire s'ouvrir. »
Ferdine frissonna par sympathie et toutes les tasses du plateau qu'elle portait s'entrechoquèrent.
« Vous le faites exprès, vous m'écrirez 25 lignes !» s'écria Mademoiselle Caton.
« Avec plaisir et tout de suite !» répondit Ferdine en s'esquivant. Rentrant dans la chambre de son père, elle s'assit devant sa petite table et s'y accouda, les mains sur les oreilles, plongée dans des réflexions peu agréables.
Dans l'histoire, pensait-elle, on admire les peuples qui se révoltent contre leurs tyrans. Moi, quand je réplique à ma bonne, j'ai à copier 25 fois l'article 11. Est-ce qu'il n'arrivera jamais rien à Caton? Les autres bonnes, j'entends les bonnes bonnes, ont quelquefois des parents qui les rappellent, ou bien elles se marient. Quand Siméon sera grand, je lui demanderai d'épouser Caton pour m'en débarrasser.
Là-dessus, elle alla prendre dans la bibliothèque le gros volume de Guizot et l'Atlas qui devait servir à ses études de la matinée. Elle s'y absorba jusqu'à 11 heures et ne releva la tête qu'au moment où elle entendit siffler sous sa fenêtre. C'était Siméon, rentrant de l'école, qui l'avertissait de se trouver sans retard au rendez-vous ordinaire de la Feuille de Trèfle, près de l'ancien parc aux escargots, transformé depuis quelque temps en dépôt de pétrification et de cailloux curieux. Ferdine se hâta de serrer ses cahiers, puis courut jeter son pensum sur la table de Mademoiselle Caton et descendit au jardin. Comme Mademoiselle Caton, par l'article 13 de son règlement, défendait à Ferdine de grimper et, d'une façon générale, de faire le garçon, on avait pratiqué une petite porte dans le mur du jardin, mais la fillette s'en servait, il faut l'avouer, le moins possible. Elle avait beaucoup grandi depuis sa première escalade. Elle avait maintenant de longues jambes, minces comme des fuseaux, agiles à courir et à grimper, comme celles d'une petite chèvre des montagnes. Elle était maigre et brune, comme un hareng sec, disait Ernest pour la vexer. Ses yeux étaient fort brillants et la beauté de ses cheveux noirs faisait l'admiration de tout le village. Quand elle riait, une jolie fossette se creusait dans sa joue. Mais elle riait rarement au rebours des autres fillettes. Elle pouvait dire et faire les plus grandes folies, tout en restant extérieurement fort grave. Ses yeux seuls avaient alors un éclair de gaieté et de malice que Siméon connaissait bien.
« Est-ce décidé? Irons-nous au Seigne cet après-midi » s'écria-t-elle en rejoignant ses deux amis.
« Oui, c'est décidé, si tu veux bien. »«
si tu veux bien !» répéta Ernest d'un air grognon. « Ce n'est pas à moi qu'on dirait « si tu veux bien !» Ça m'ennuie joliment d'aller au Seigne, moi.
Tu peux rester à la maison, mon cher Ernest, dit Ferdine avec beaucoup de suavité.
C'est ça, et m'ennuyer toute l'après-midi à vous attendre. Tu es gentille, toi.
Eh bien, allons ailleurs, dit Siméon. Je n'y tiens pas énormément à ces œufs de grenouille.
Au contraire, tu y tiens beaucoup, interrompit Ferdine vivement. Voilà des semaines que tu en parles. « Nous irons au Seigne et Ernest ne s'ennuiera pas. Je mettrai dans mon panier de quoi le distraire. »«
Qu'est-ce que tu y mettras bien dans ton panier ?» demanda Ernest, dont l'intérêt se réveilla subitement.
« Du pain frais, de grosses noisettes et de beaux raisins secs. Papa en a reçu une grande boîte.
Il m'en a donné plein ma petite corbeille à peloton et je les ai gardées pour la première promenade que nous ferions ensemble. Aimes-tu les raisins, Ernest ?
Comme tout le monde, répondit-il en allongeant une lèvre boudeuse. Je ne suis pas plus gourmand qu'un autre. Si on t'écoutait, on pourrait croire que j'ai tous les défauts. Tu es au contraire pétri de gentillesse. Tiens, regarde la jolie mine que tu fais.
Et Ferdine tira subitement de sa poche un petit miroir de dessous qu'elle mit devant les yeux d'Ernest.
Je l'ai acheté exprès pour toi. Mais ne te sauve donc pas, je t'assure que tu aurais du plaisir à te voir.
Ce n'est pas ainsi que tu le corrigeras, dit Siméon.
Nous verrons bien. Est-ce que tu le corriges, toi, en cédant toujours ? Tu en fais un vilain petit tyran. Je suis sûre que Mademoiselle Caton, quand elle était petite, avait un frère qui te ressemblait. Voilà pourquoi elle est devenue si insupportable.
Merci, dit Siméon en riant. Il s'était assis sur le mur, dont il détacha une petite pierre qu'il se mit à considérer d'un air absorbé.
Est-ce une pierre curieuse ? Demanda Ferdine en se penchant à côté de lui.
Oh, pas le moins du monde, c'est un caillou tout ordinaire. Et il le jeta au milieu des plates-bandes.
Pourquoi donc le regardais-tu ainsi ?
Est-ce que je le regardais ? Je pensais à autre chose.
Siméon, dit Ferdine, tu es déjà distrait comme un savant.
Un savant, répéta-t-il avec un soupir, voilà ce que je ne serai jamais.
Comment donc ? Mais tu l'es déjà, s'écria la fillette. Tu sais les noms des plantes et des insectes mieux que l'instituteur. C'est lui-même qui l'a dit à papa.
Siméon, pour toute réponse, haussa les épaules et il allait descendre de son perchoir, mais Ferdine le retint.
« Je ne veux pas que tu hausses les épaules, dit-elle. Je veux que tu deviennes un savant, un grand savant. Qui est-ce qui pourrait t'en empêcher ? Dis.
Tu n'entends rien à cela, répondit-il d'un ton fort découragé. Tu n'es qu'une petite fille. Moi, j'ai 15 ans et ma tante dit
« Enfant, venez dîner !» cria Mademoiselle Cornélie de sa fenêtre.